France Info. 20h, 21h, France Info, les informés, Jean-François Aquili.
Eh bien bonsoir, la réforme donc de l'assurance chômage, la crise dans les urgences, la PMA, l'appel du 18 juin et Monsieur Trump déjà en campagne. Voilà, c'est le menu des informés avec Marion Mourgue. Bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue, grand reporter au service politique du Figaro avec Yasmina Jaffar. Bonsoir Yasmina, journaliste fondatrice du site laruchemedia.com. À mes côtés également Virginie Pradel. Ravie de vous retrouver. Bonsoir Virginie.
Bonsoir.
Fiscaliste, présidente de l'Institut de recherche fiscale et économique Vauban. Vous tombez bien ce soir parce qu'on va parler comptabilité avec vous. Et avec ce soir également, bonsoir Romain Mouton.
Bonsoir Jean-François.
Salut Romain, communicant, fondateur de l'agence RM Conseil. Nous sommes ensemble jusqu'à 21h pour les informer. Alors c'est potentiellement, avec les retraites bien sûr, l'une des réformes les plus explosives du quinquennat. Édouard Philippe a présenté son projet de réforme de l'assurance chômage, le Premier ministre qui a dégagé quatre objectifs.
D'abord, en finir avec le recours abusif aux contrats courts. Ensuite, respecter un principe simple selon lequel il faut que le travail paye toujours mieux que le non-travail. Troisième idée, il n'est pas légitime que notre système garantisse durablement des niveaux d'indemnisation pour les salaires élevés ou très élevés, très supérieurs à ce qui se passe chez nos voisins européens. Enfin, et c'est la condition sine qua non du succès de notre plan, il faut accompagner plus efficacement les chômeurs pour leur retour vers l'emploi.
Voilà donc pour cette petite piqûre de rappel. Marion Mourgue, en quoi cette réforme s'annonce, on le dit toujours, explosive?
Alors déjà, il y a une réforme et Emmanuel Macron avait annoncé à sa conférence de presse le 25 avril dernier qu'il voulait continuer à réformer, donc il y a déjà ce message. Ensuite, c'est explosif parce que c'est la première fois que l'État s'en mêle. D'habitude, c'est les partenaires sociaux qui gèrent l'assurance chômage. Ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord. Et c'est pas sûr, vu les réactions des syndicats, qu'ils vont être d'accord avec la réforme qui est annoncée. Là, on voit qu'il y a plusieurs objectifs déjà qui sont donnés. Faire des économies, permettre de revenir au plein emploi. Et puis, je pensais à un autre, c'était ce que dit Édouard Philippe, c'est qu'une personne qui est au travail, finalement, coûte moins cher que celui au chômage.
Oui.
Mais ça, c'est pour les mots. Et encore une fois, les syndicats, pour l'instant, accueillent avec scepticisme.
Oui, on va le voir ça. Yasmina Jaffar, il faut que le travail paye mieux, hein, c'est ce que vous vouliez dire, que le chômage, grosso modo. Les chômeurs sont stigmatisés aujourd'hui.
Non, je pense pas qu'il faille le prendre de cette manière-là. Le système est protecteur, c'est une assurance. Donc on peut se dire que parce que c'est une assurance, on y a droit. Et c'est ce mot-là peut-être qui peut poser question, parce qu'on se dit de quelle manière on pourrait retirer un droit auquel nous avons cotisé. Mais partout en Europe... ça fonctionne un peu mieux, en tout cas dans trois pays sur quatre, ça fonctionne mieux qu'ici. Donc, de toute évidence, cette façon de faire depuis des années ne fonctionne pas. Donc, il faut revoir le système. Et l'argument un peu massu, c'est de se dire que comment se fait-il que nous gagnions autant d'argent au chômage qu'au travail? L'idée, c'est de travailler. Il faut par contre oublier l'argument un peu facile, pour pas dire populiste, qui est pour une meilleure justice sociale, nous allons toucher aussi au cadre.
L'idée, pourquoi c'est vous dites populiste?
Parce que cette idée de se dire que pour une justice sociale, nous allons faire cette réforme, non, c'est plutôt, comme le disait Marion, une volonté de faire des économies. Et dire les choses telles qu'elles le sont, parce qu'en effet, il y a une volonté et une réalité de faire des économies. L'assurance chômage coûte... Il y a une dette qui est contractée de 35 milliards, et ça coûte par an 3,5 milliards d'euros. Donc il faut en effet faire des économies et remettre les gens au travail. Et cette volonté, sur certains endroits, comme ça, comme le bonus-malus, on en reparlera tout à l'heure, cette volonté de vouloir rajouter 6 mois de travail pour pouvoir toucher les allocations, rendre les choses un petit peu plus difficiles, pourrait porter ses fruits, je crois.
Et Virginie Pradel, faire des économies, dit à l'instant Yasmina Jaffar, est-ce à dire qu'au fond, le fond de la réforme technique, c'est de réduire les allocations pour que l'État débourse moins?
Bah oui, évidemment. Bah, c'est quand même une mesure de bon sens quand on voit la dette stratosphérique qui est aujourd'hui celle de l'assurance chômage. Et on peut pas nier qu'il y a beaucoup d'abus, qu'il y a des indemnisations qui vont parfois au-delà de ce qui serait nécessaire. Alors moi, ça m'étonne absolument pas cette réforme. Je trouve que c'est une réforme de bon sens et qui doit être saluée à certains égards, hein, notamment en ce qui concerne la dégressivité des allocations. Et pour moi, ça a été annoncé dès le départ. Je sais pas si vous vous rappelez, Emmanuel Macron a supprimé la cotisation salariale chômage. Je sais que ça n'a pas suscité beaucoup de commentaires à l'époque, mais c'est ce qu'ont fait les Anglais quand ils ont voulu réformer leur système d'allocation chômage. Ils ont dit, dorénavant, on n'est plus dans un système assurantiel, on est dans un système où tout le monde peut être au chômage. D'ailleurs, sa première idée, c'était même d'offrir l'assurance chômage aux indépendants. Donc là, je pense qu'en fait, on va même continuer dans cette logique et on va encore renforcer la dégressivité des allocations parce qu'en définitive...
Oui, on y va droit dedans là, hein. Oui. Je pense que, de toute manière,
aujourd'hui, le financement du chômage va dans ce sens-là.
Romain Mouton, il sera plus possible, à partir du 1er avril 2020, de bénéficier d'un chômage supérieur à la moyenne des revenus du travail. Alors, il paraît qu'un chômeur sur cinq est concerné. Est-ce que vous pensez que ça va passer dans l'opinion publique, cette idée-là?
Je pense que c'est une réforme qui va dans le bon sens et qui est une réponse politique. Une réponse politique à deux types de publics. Je pense, dans un premier temps, aux Gilets jaunes. Mais je pense également au vote Front National, au vote du Rassemblement National aux dernières élections européennes. Avec cette réforme, c'est remettre le travail au cœur de la politique économique. Les Gilets jaunes, c'était des travailleurs. Les gens qui votent Front National, c'est aussi en partie des gens qui travaillent mais qui gagnent pas assez. Et ce qui est souvent pointé du doigt et ce qui est... C'est ce que je peux regretter un peu dans la présentation et dans la communication autour de cette réforme, c'est que on ne parle pas du constat. C'est aujourd'hui très simple de faire, ne serait-ce qu'à la base.
C'était dit, non, quand même, non.
C'est souvent dit. Il y a souvent des rapports, oui. Etc. Mais pourquoi le gouvernement, en préalable, ne ferait pas une campagne de communication tout simplement pour rappeler le constat et pour justement, ils sont en train de parler du dernier kilomètre.
C'est mal emballé, mal présenté.
On arrive tout de suite sur les résultats que je trouve vont dans le bon sens, mais on ne va pas forcément avant sur les causes. Et pour ça, il y a des techniques très simples de communication, de présenter le constat, notamment sur les réseaux sociaux avec des infographies, des vidéos, etc., qui pourraient permettre aussi de faire ce fameux geste sur le dernier kilomètre qui tient à cœur au gouvernement en ce moment, c'est-à-dire de faire de la pédagogie sur les réformes.
Vous me l'avez enlevé de la bouche. On va parler dans un instant de la réaction des syndicats et on évoquera le bonus malus comme l'a suggéré Yasmine Ajafar. Mais pour l'heure, 20h10 sur France Info, le rappel de l'info avec vous, Thomas Bénèche.
Le chauffard soupçonné d'avoir renversé le 9 juin dernier deux enfants à Lorient est placé ce soir en détention provisoire. Il est mis en examen pour homicide involontaire aggravé. Le suspect est interpellé ce matin dans un hôtel de Lanester dans le Morbihan grâce à l'appel à témoins diffusé ces derniers jours. Il avait pris la fuite après avoir fauché il y a 9 jours maintenant deux cousins. L'un d'eux est mort, l'autre est toujours ce soir hospitalisé dans un état grave. 372 voix pour, 44 contre et 144 abstentions. Le projet de loi mobilité a été adopté ce mardi en première lecture à l'Assemblée. Direction maintenant le Sénat pour ce texte. Il doit permettre, entre autres, au département de relever la vitesse sur les axes aujourd'hui limités à 80 km/h. Au Royaume-Uni, le député conservateur Boris Johnson arrive en tête du deuxième tour du scrutin, censé désigner un successeur à Theresa May. Il remporte 126 voix. Il ne reste désormais plus que 5 candidats en lice pour briguer la tête des conservateurs après la démission de la première ministre britannique de ce poste. Le vice-capitaine des Bleus, Mathieu Bastaro, et le demi de mêlée Morgan Parra ne disputeront pas le prochain mondial de rugby au Japon. Il ne figure pas dans la liste des 31 joueurs et 6 réservistes dévoilés ce mardi par Jacques Brunel, le sélectionneur.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Nous allons aborder donc le bonus-malus, mais tout d'abord, les syndicats pas contents du tout. On entend, on écoute Laurent Berger pour la CFDT et Catherine Perret pour la CGT.
On a une réforme qui est perdante, archi-perdante pour l'ensemble des demandeurs d'emploi. Nous sommes abasourdis de cette réforme qui est, je le répète, profondément injuste.
Tout le monde sait bien que c'est pas parce que, justement, un chômeur n'est pas indemnisé que cela lui permet plus facilement de retrouver de l'emploi.
Bon, Marion Mourgue, les syndicats s'étaient courus, hein, n'en veulent pas. Il faut dire quand même que les conditions d'accès au chômage sont durcies. Alors, peut-être que je peux rappeler la règle, à partir du 1er novembre, il faudra avoir travaillé 6 mois durant les 24 écoulés et non plus 4 mois sur 28. On dit que c'est un régime proche, je crois, du Royaume-Uni. Marion Mourgue, est-ce que l'approche est trop comptable ?
C'est un peu la logique du gouvernement, oui, parce que s'il faut faire des économies, il faut bien appliquer les recettes. Mais surtout, on peut voir que 2 ans après la présidentielle et la recomposition politique, là, on a envie de dire, Emmanuel Macron passe aux syndicats. C'est-à-dire que les syndicats ont essayé de se mettre d'accord, ils n'ont pas réussi, et là, de fait, ils sont presque squeezé de la conversation et de la négociation, et Emmanuel Macron ne les prend plus en compte. C'est-à-dire que ce matin, ils ne sont pas aux côtés du Premier ministre ni de la ministre du Travail pendant l'annonce. Donc finalement,
ils sont en face, hein.
Oui, mais on fait sans eux. Et donc, c'est aussi ça qui peut être un tournant dans l'acceptation de la réforme. Mais je reviens juste sur ce que disait Romain Mouton tout à l'heure. Je ne suis pas sûre que ce soit forcément une réponse aux Gilets jaunes, cette réforme. Et je ne suis pas sûre que les Gilets jaunes l'accueillent très bien. On a plus l'impression que c'est l'application du en même temps. C'est-à-dire qu'il y a à la fois le bonus-malus qui plaît à la droite, et puis il y a l'accompagnement des chômeurs dans le temps qui sera un petit message envoyé à la gauche. Donc après, on verra si ce en même temps passe.
Ouais, Virginie Pradel, il est question de 236 000 personnes concernées sur ce durcissement des règles hein, de d'indemnisation. 11% des allocataires, ce sont les échos qui ont avancé ces chiffres. Une économie de 160 millions d'euros. On a presque envie de dire, est-ce que ça n'est pas un petit peu cher payé pour si peu dans les caisses de l'État?
Pour d'image. Pour les contrats courts.
Oui.
Moi, je trouve que c'est une très mauvaise image parce que déjà, quand on se compare aux autres pays, on voit que on a déjà la cotisation patronale chômage la plus élevée, hein, 4%, ce qui est bien supérieur à d'autres pays. Et là, ils veulent la porter jusqu'à 7%. Sachant qu'il y a déjà énormément de cotisations patronales, moi je trouve que c'est un message qui est apocalyptique et je trouve qu'on ne tient absolument pas compte de la spécificité de ces secteurs et du fait qu'ils sont obligés de recourir à des contrats courts. Et je pense que le message devrait être plutôt il faut que tout le monde travaille, quitte à avoir parfois des CDD, pas avoir forcément la forme d'emploi qui était le standard au XXe siècle, à savoir le CDI, parce que malheureusement on ne peut plus l'offrir à tout le monde. La situation est trop complexe, la situation économique est trop complexe. Donc, pour répondre à votre question, je trouve que c'est beaucoup de bruit pour pas grand-chose.
Ce que je vous propose, c'est qu'on va écouter d'abord sur les contrats courts, hein, puisque vous évoquez ce sujet des bonus-malus. Ce qu'on a dit hier, c'était Geoffroy Roux de Bézieux, le patron des patrons, le président du BDF, il était l'invité de France Info.
C'est vrai, moi je suis d'accord avec ça, que dans certains cas, les entreprises ont tendance à multiplier les CDD courts avec la même personne. Et nous, on avait proposé de corriger ce point, parce que là, on peut embaucher en CDI. Mais c'est pas ça que prépare le gouvernement. On a un système très complexe qui, malheureusement, n'aura aucun effet sur ce qui est recherché, qui était de transformer des CDD courts en CDI ou en CDD plus longs.
Romain Mouton, quelle est l'idée au fond? C'est d'assouplir le marché du travail. Alors il est question aussi de mesures d'accompagnement plus efficaces des chômeurs qui seraient mis en parallèle ou d'essayer de favoriser des CDI et des contrats longs. Il y a quelque chose de l'ordre de la contradiction dans tout ça.
À mon sens, le risque est de créer deux catégories parmi les travailleurs. Ceux qui sont très employables et qui vont donc être pris en charge notamment par les agences d'intérim, qui vont proposer à leurs clients, donc les employeurs, des personnes employables et donc qui ne pénaliseront pas l'employeur parce que la personne qui sera en fin de contrat, du coup, retrouvera très facilement un emploi et via son agence d'intérim. Et dans ce cas-là, l'employeur ne sera pas pénalisé. Et à côté de ça, on aura une autre catégorie de travailleurs qui sera ceux qui ne sont pas employables pour différentes raisons de la vie et qui, eux, par contre, seront pris en charge par Pôle emploi et qui seront donc peut-être moins facilement employés, encore plus facilement, moins facilement employés à cause de ces pénalités dont seront victimes les entreprises. Et donc, du coup, je lis aussi que Pôle emploi va avoir 1000 emplois supplémentaires. Mais 1000 emplois pour faire quoi? Est-ce que ces personnes vont être formées dans l'accompagnement, et c'est pas ce qui est mentionné par le gouvernement, dans l'accompagnement des demandeurs d'emploi, notamment dans toute la partie digitalisation de la demande d'emploi. Il y a eu notamment, je pense, on avait vu ça tout se passer, un jeune prodige, Paul Duhan, qui avait créé Bob Emploi, qui était une plateforme qui permettait aux demandeurs d'emploi de les accompagner sur le parcours de retour à l'emploi. Mais c'est le cœur du sujet, c'est-à-dire que sous ces écorchés de la vie, ces gens qui ont des problèmes, des vrais problèmes à retrouver un emploi, parce que, répétons-le, on peut être pour cette réforme et rappeler que le chômage est la pire des solutions et que être au chômage, ce n'est pas criminaliser les gens qui sont au chômage que faire cette réforme parce que les gens qui sont au chômage ne sont pour la majorité des cas très malheureux d'y être. Donc l'accompagnement des personnes est au cœur, devrait être au cœur de cette réforme et malheureusement je doute que les 1000 personnes...
Vous trouvez ça un peu court, les 1000 salariés prévus
J'aimerais savoir qu'est-ce qu'ils vont faire et comment ils vont être accompagnés et à quoi ils vont servir.
Yasmina Jaffer, sur le bonus-malus, vous avez lancé le sujet au début de l'émission, le gouvernement veut remontée qu'il s'attaque au patron également. Il y a un petit côté en même temps, c'est
oui,
ça?
Exactement, oui, exactement. Comme le disait Marion Bourque tout à l'heure, en effet, il y a une volonté de plaire à gauche et de plaire à droite. C'est un véritable en même temps, mais totalement assumé. C'est évident que les chômeurs ne vont pas se précipiter dans la rue pour crier leur mécontentement, parce qu'en effet, comme le disait très bien Romain Mouton, quand on est au chômage, on a plutôt envie d'être discrète parce que c'est une vraie souffrance. L'idée de s'installer au chômage, ça n'est pas l'idée. L'idée, c'est de s'en sortir. Régionaliser Pôle emploi, ça serait intéressant pour pouvoir créer ce système d'accompagnement, parce que pour quelqu'un d'aussi centralisateur qu'Emmanuel Macron, il va falloir qu'il se fasse violence pour pouvoir vraiment changer la donne de l'accompagnement, parce qu'on ne peut pas promettre tout et son contraire. Ça serait en même temps un petit peu trahi. Et par rapport au bonus-malus, on se rend bien compte qu'il y a des abus totaux de permittence, surtout dans le domaine de l'intermittence. Il y a 7 secteurs qui sont concernés, mais en 2017, il y a eu 3/4 des contrats qui sont en fait des CDD, et ça n'est pas possible, et ça a été multiplié par 4 en 30 ans. Donc c'est une bonne idée, le bonus-malus, mais il faut en effet, à côté, accompagner, régionaliser et faire en sorte réellement d'une véritable volonté de retour à l'emploi et pas simplement des promesses un peu en même temps.
Oui, Virginie Pradel, 1000 salariés en plus hein, chez Pôle emploi, comme le rappelait Romain Mouton. Est-ce à dire que le système actuellement est inefficace ou insuffisant?
J'ai jamais eu affaire à Pôle emploi, mais moi, les échos que j'ai eus, non, je pense qu'il y a des gens qui sont très volontaires, mais comme disait très bien monsieur, faut quand même faire un virage.
Monsieur, c'est Romain Mouton, hein.
Oui, monsieur. Non, un virage digital. Hein. Oui. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des plateformes et il y a tout un tas d'instruments digitaux qui peuvent permettre d'optimiser le retour à l'emploi. Et oui, je doute que mettre toujours plus de salariés chez Pôle emploi règle les problèmes.
Oui, Marion Mourgue.
Mais c'est surtout qu'aujourd'hui, on a une inadéquation entre l'offre et le marché du travail, avec une évolution des postes. Et puis, ce qu'offre Pôle emploi, et souvent les gens qui sont à Pôle emploi n'ont pas connaissance de cette évolution des métiers, et on le voit dans les technologies, dans la communication, et il y a beaucoup d'offres qui n'y répondent pas.
Allez, un dernier mot avec vous sur ce sujet, Yasmina Jaffar.
En effet, c'est très juste. Il y a aussi l'expérience territoire zéro chômeur. On en a tous entendu parler. C'est cette histoire de formation. Il y a un vrai problème au niveau de la formation dans ce pays. Les sommes allouées à ce secteur sont incroyable, et c'est scandaleux de voir à quel point ça ne correspond pas aux emplois demandés. Il y a énormément d'emplois non pourvus, je sais plus, 300 000 je crois, quelque chose comme ça. Donc c'est vrai que le territoire zéro chômage devrait être organisé de façon nationale et généralisée.
Allez, 20h20 sur France Info. Rappel de l'info avec vous, Thomas Bénèche.
Michel Platini, ancien patron de l'UEFA, placé aujourd'hui en garde à vue, cela dans le cadre de l'enquête ouverte en France pour corruption après l'attribution du mondial de football 2022 au Qatar. L'ancien numéro 10 de l'équipe de France n'a rien à se reprocher, se dit totalement étranger à des faits qui le dépassent, font savoir ce mardi les avocats de Platini. Interpellé ce matin dans un hôtel de Lanester dans le Morbihan, l'automobiliste soupçonné d'avoir fauché 2 enfants est ce soir en prison. Après 9 jours de cavale, il est placé en détention provisoire. Avant cela, il a été mis en examen pour homicide involontaire aggravé. Le 9 juin dernier, il avait renversé 2 cousins avant de prendre la fuite. L'un est mort, l'autre est toujours à l'hôpital de Brest dans un état préoccupant. La CFDT qualifie ces mesures de profondément injustes. La CGT souligne leur caractère inefficace. Le gouvernement a présenté aujourd'hui sa réforme de l'assurance chômage. À compter du 1er novembre, pour être indemnisé, il faudra avoir travaillé 6 mois sur 24 au lieu actuellement de 4 sur 28. Cela va être de la folie, assure sur Twitter Donald Trump, le président des États-Unis. Il lance officiellement aujourd'hui sa campagne pour sa réélection à la Maison-Blanche en 2020. Il le fait depuis Orlando, en Floride, depuis l'Amway Center. Sur place, on attend quelques 2000 personnes. 2 matchs au menu ce soir du Mondial féminin de football, Italie-Brésil et Jamaïque-Australie. Coup d'envoi de ces duels à 21h.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Autre sujet explosif, décidément, les urgences. Agnès Buzyn, face aux représentants des hôpitaux, des maisons de retraite, des associations, a assuré aujourd'hui qu'elle allait mettre tout en œuvre pour qu'il n'y ait pas de trou en cas de canicule cet été. Le collectif Interurgence, lui, a voté hier soir la poursuite du mouvement de grève entamé mi-mars. Pas vraiment surprise, la ministre de la Santé sur France Info ce matin.
Je comprends que les personnels des urgences qui aujourd'hui sont en grève veulent des preuves en réalité que les choses vont s'améliorer pour eux. d'abord une demande qui était la leur, qui était de reconnaître la spécificité de leur métier et les risques auxquels ils sont confrontés en permanence, notamment les incivilités. Et donc, j'ai acté une prime de risque pour tous les personnels des urgences en dehors des médecins. C'est une prime de risque pérenne de 100 euros par mois. Ça n'est pas rien.
Virginie Pradel, les fameux 100 euros dont on parle depuis quelques jours, hein, ce n'est pas rien, comme le dit la ministre.
Non, mais c'est bien. Mais ce qui se passe aux urgences est dramatique. Moi, je dis ça parce que j'ai plusieurs personnes de ma famille et des proches qui sont... on ne leur paie plus... les heures supplémentaires ne sont pas payées depuis des années.
Comme chez
des
les policiers.
Stocks, exactement. Ils ont des stocks d'heures supplémentaires qui sont complètement délirants. Ils sont au bord de l'épuisement. Ils travaillent quasiment 7 jours sur 7. J'ai envie de dire 100 euros, bon, c'est sympa, mais ça reste quand même epsilonesque. Il faut absolument régler ce problème des urgences. On fait que des petites réformes micro-paramétriques. C'est quand même... Je trouve que le chantier...
Vous trouvez que ce chantier arrive... cette reprise en main gouvernementale est tardive et presque un peu timide.
C'est toujours... Mais de toute manière, ça fait des années qu'on n'arrive pas à régler le problème et les problèmes ne font que s'accentuer. Il y a une violence qui est incroyable aux urgences. Vous parlez aux médecins, aux autres personnels hospitaliers, les infirmières sont presque terrorisées d'aller travailler. Il faut absolument remédier.
Marion Mourgue, la ministre a-t-elle tardé ? La question a tourné également.
Oui, elle a tardé et le gouvernement a senti qu'il y avait le feu et que la crise s'installait. Donc il fallait réagir. Mais c'est presque trop tard puisque ça fait des semaines que les urgentistes interpellent le gouvernement, demandent à être reçus. Ils n'ont pas été reçus pendant des semaines. Et donc, ces 100 euros, ça va être presque trop tard. C'est-à-dire que quand vous avez une crise, soit vous répondez tout de suite, et dans ces cas-là, vous essayez d'éteindre l'incendie, soit vous tardez, et on sait que ça peut déboucher sur la crise des gilets jaunes.
Ouais, Romain Mouton, dans le même ordre d'idée, il y a ce côté un petit peu, l'été sera chaud, il y a quelque chose de l'ordre de la difficulté pour le gouvernement, il faut éteindre cet incendie-là social.
Oui, ce qui est toujours triste dans ce genre de situation, c'est que c'est une nouvelle rustine sur un système qui a réformé. Le problème des urgences est un problème ancien auquel aucun gouvernement récent ne s'est attaqué. Et le fait est que c'est le système qu'il faut réformer. Et que même si on donne 100 euros de plus, c'est bien certainement, et je ne suis pas un expert du sujet des urgences, mais le fait est que pour Agnès Buzyn, donc c'est la première crise, ça va être intéressant aussi de voir sa capacité politique à gérer, et un sujet qu'elle connaît bien puisqu'elle était avant elle-même personnelle à l'hôpital. Donc c'est le système des urgences à réformer, désengorger notamment avec des solutions simples qui sont proposées. Les gens qui sont aux urgences, il y en a la plupart qui n'ont rien à y faire. Donc avec le développement de la télémédecine, des applications qui pourraient permettre aux personnes de ne pas forcément aller aux urgences. Donc une réforme plus globale qui ne peut pas avoir lieu dans la situation actuelle. Donc le gouvernement est condamné à mettre des rustines sur une crise qu'il ne maîtrise pas.
Alors 15 millions d'euros, Yasmina Jaffar, destinés à des recrutements estivaux, on dirait, pour faire face à l'éventuel afflux. On parle de risque du caniculaire. Les hôpitaux vont devoir s'adresser aux ARS, ce sont les agences régionales de santé, pour en cas de besoin. Il ne faudrait pas que tout le monde réclame des effectifs en même temps. Là encore, il y a des moyens qui sont avancés, mais vont-ils suffire ? On a l'impression que quelque part, le gouvernement court après une situation dont il a hérité, il faut le rappeler.
Il a hérité exactement de cette situation. Ça rappelle un petit peu les 100 euros de cet automne. Vous rappelez qu'Emmanuel Macron avait proposé sur les fiches de paye, c'est un petit peu ce chiffre magique. On retourne sur les 100 euros. Agnès Buzyn avait annoncé qu'elle avait proposé d'en donner même 500 millions d'euros supplémentaires aux hôpitaux pour leur permettre de réduire leur dette de 50% et de pouvoir souffler un petit peu. Et qu'en effet, la façon de faire, peut-être faire une pédagogie aussi par rapport aux Français, les médecins prennent des patients que sur rendez-vous. Donc à partir de cet instant, tout le monde se retrouve en urgence parce qu'on n'a pas envie d'attendre d'avoir un rendez-vous. Donc peut-être qu'il faut aussi changer cette méthodologie-là par rapport aux médecins qui sont aussi en train de déserter parce qu'il y a une crise de la vocation. Et c'est dommage parce que ce sont des métiers fabuleux qui ont permis l'attractivité grâce aux différentes séries. Si on regarde la fiction, comment elle s'est emparée du système médical, d'urgence à d'autres. Oui. Donc voilà, ce sont des métiers magnifiques. Oui, voilà, mais là, on n'y est plus. On n'est plus dans l'urgence de France Télévisions.
Un mot court pour compléter. Il y a des sources d'inspiration dont le gouvernement devrait faire appel. des pays étrangers, notamment le système de santé israélien et estonien, mais aussi des hôpitaux privés au statut particulier. Je pense à l'hôpital Foch-sur-Aisne ou des centres de santé à Paris. Les urgences sont gérées et donc il y a à nos portes, même sur notre pays, des sources d'inspiration.
On peut vous dire qu'on doit s'inspirer de l'exemple étranger. Allez, on va marquer une pause. Et français, oui. Il est bientôt 20h et 28 minutes sur France Info. Le rappel de la météo, on passe à l'info et on se retrouve dans quelques minutes pour la deuxième partie des informés.
Simone a 94 ans. Elle est en bonne santé, mais il y a des choses qu'elle ne peut plus faire. Sa fille Aude passe chez elle tous les soirs après le travail pour lui faire ses courses et vérifier que tout va bien. Un jour, elle décide enfin d'appeler Petit-Fils. Grâce à Petit-Fils, une auxiliaire de vie professionnelle vient chaque jour chez Simone lui préparer son dîner et passer la nuit avec elle.
Petit-Fils, l'aide à domicile sur mesure pour les personnes âgées. Petit au pluriel, -fils.com.
Pour acheter un bien immobilier neuf, faites le choix de l'expérience, le choix de professionnels mobilisés chaque jour, le choix du...
Quand on veut acheter dans le neuf, les discours c'est bien, mais les preuves c'est mieux. Avec Vinci Immobilier For You, en cas de retard de livraison, vous êtes dédommagé. Résidence éligible, détails et conditions de la compensation financière versée par Vinci Immobilier en cas de non-respect du délai de livraison fixé dans l'acte de vente sur vinciimmobilierforyou.com ou dans votre bureau de vente.
La météo, les prévisions avec vous, Élodie Calac pour Météo France.
Attention aux orages ce soir, cette nuit. Des orages parfois forts remontent de la Normandie vers le nord de la Seine et la région parisienne. Ils peuvent s'accompagner de grêles et de fortes rafales de vent. Demain matin, il restera juste quelques averses orageuses vers la frontière belge. Un petit risque d'averses entre le nord-ouest, le centre, la Bourgogne, la Lorraine, sous un ciel bien nuageux, surtout sur la Bretagne, la Vendée, le Cotentin. Ailleurs, vous profiterez du soleil. Il fera 11 à 15 degrés au nord, 14 à 21 au sud. L'après-midi, le ciel deviendra chaotique entre le massif central et le nord avec des averses parfois orageuses. Des orages plus musclés en fin de journée entre l'Auvergne, la Bourgogne, la Lorraine. Sur les Alpes, ça tournera aussi à l'orage. On aura du soleil de la Bretagne au sud-ouest et près de la Méditerranée. Il fera moins chaud, 18 degrés à Brest, 24 à Paris, 30 à Lyon, à Toulouse et encore 32 à Strasbourg.
Il est 20h30 sur France Info, l'heure de la suite des informés avec Jean-François Killy.
20h, 21h, France Info, les informés, Jean-François Aquilé.
La deuxième partie des informés de France Info avec nos invités Marion Mourgue, grand reporter au service politique du Figaro, avec Yasmina Jaffar, journaliste fondatrice du site laruchemedia.com, avec Virginie Pradel, fiscaliste, présidente de l'Institut de recherche fiscale et économique Vauban, avec Romain Mouton, communicant, fondateur de l'agence RM Conseil. On va passer à trois lettres qui font débat. PMA, Agnès Buzyn, on en reparle, a précisé le calendrier ce matin de la loi bioéthique, vote prévu, eh bien, début 2020, ça va très vite, hein, les décrets d'application suivront dans la foulée. La procréation médicalement assistée étendue à toutes les femmes secoue certaines consciences, notamment celle de Bruno Le Maire sur Europe 1 ce matin.
J'ai fait part de mes interrogations il y a maintenant plusieurs années sur la PMA pour les couples homosexuels. Ces interrogations, je les ai toujours, mais je me réjouis de confronter ces interrogations aux convictions des autres. Parce que c'est ça, le mérite du débat démocratique, c'est de vous faire bouger. Le débat démocratique doit vous permettre d'évoluer, de changer, d'écouter et d'entendre.
Romain Mouton, pas facile hein, pour le ministre de l'économie. Apparemment, il chemine. Hein,
Voilà. Oui, le cheminement, c'est étonnant parce qu'il était pour le mariage pour tous. Il est plutôt progressiste dans ses prises de position. Donc c'est assez étonnant, mais il n'a pas dit qu'il était contre.
Non.
Mais globalement, les anciens de droite cheminent. Gérald Darmanin a dit qu'il avait changé d'avis. À mon sens, c'est tout gagnant pour Emmanuel Macron et pour le gouvernement, cette réforme. Pourquoi ? Parce que déjà, c'est un signe vis-à-vis de la gauche, de l'aile gauche, on va dire, de la majorité, premièrement. Deuxièmement, ça va permettre d'animer un sujet de société en parallèle de réformes économiques. Donc, ça permet aussi de faire passer d'autres réformes en parallèle du débat. Ça va encore une nouvelle fois fracturer et diviser la droite. enfin ce qui reste de LR.
Voilà, ce qui reste, oui.
Ce qui reste, parce qu'on l'a vu, alors bien évidemment, c'était avec énormément peut-être de mauvaise foi, mais des personnalités comme Geoffroy Didier qui sont montées au créneau très rapidement après les européennes pour dire que LR avait été trop archaïque sur certains sujets, notamment la PMA. Mais en tout cas, ça veut donc dire que chez les Républicains et dans une frange de la droite, il y a aussi cette fracture. Et donc ça peut permettre à Emmanuel Macron et à la majorité de récupérer une partie de cette droite modérée et progressiste. Et enfin, c'est aussi une mesure, à mon sens, de justice et de progrès, et donc peu positionnée, ouais. Parce qu'il n'y en a pas eu vraiment depuis le début du quinquennat, il y a beaucoup de réformes économiques, mais une justice de progrès et de société qui pourra jouer au crédit d'Emmanuel Macron.
Parce que Marion Mourgue, la majorité avait quand même un petit risque de... un peu de se diviser sur la question, malgré tout. Hein.
Oui, et c'est pour ça que j'apporterai un petit bémol à ce que dit Romain Mouton, c'est que c'est gagnant pour Emmanuel Macron, mais quand on aura la fin de l'histoire, et on ne sait pas si jamais les manifestations sont aussi nombreuses que lors du mariage pour tous, alors là, ça deviendra compliqué pour le gouvernement. Pour l'instant, on a l'impression qu'en effet, c'est plutôt...
Il y a un risque de mobilisation de ce qu'on a connu il y a quelques années, hein. C'était 2013. Hein,
Serait difficile d'avoir la fin de l'histoire avant qu'elle s'engage. Mais oui, il peut toujours y avoir des manifestations, des réactions. Il y a énormément de gens qui sont hostiles. Et vous l'avez rappelé, y compris au sein de la majorité. Agnès Thil, qui est une députée en marche, doit être entendue par le parti le 25 juin parce que justement, elle s'est prononcée contre la PMA. Donc... oui, il peut y avoir des résistances. Après, de quel niveau seront-elles? On va voir.
Yasmina Jaffar, il y a un risque d'opposition. Je répète ma question, un type mariage pour tous, ou bien vous avez la sensation, au fond, que cette évolution sociétale est à peu ou prou admise par tous, quelque part, comme si le mariage pour tous, ouais, avait... ouvert la voie, finalement.
Exactement, c'est ce que j'allais vous dire. C'est vrai que les grandes avancées sociales et sociétales se sont faites à gauche, donc c'est important pour ce fameux en même temps, vu que Édouard Philippe est à droite, que la plupart des personnalités régaliennes sont à droite, et en même temps, cette politique, il faut apporter absolument cette idée de progrès social à gauche. Donc, je crois que le travail de François Hollande autour du mariage pour tous a permis une ouverture d'esprit. On voit dans tous les pays du monde, c'est vrai, un recul par rapport à l'avortement, mais il y a aussi d'autres pays qui prennent en main cette question du mariage pour tous et de la PMA. Et il y a une avancée des mentalités. On n'est pas il y a 10 ans, on n'est pas il y a 5 ans, ça va très très vite. Donc là, Emmanuel Macron se retrouve en fait en position compliquée parce qu'il y a une frange de son parti qui peut se révéler plutôt opaque et pas d'accord, mais en même temps, il se sert totalement de LR, totalement HS, et en même temps l'envie de d'apporter le côté un petit peu viscéral qu'il y a en lui d'homme de gauche.
Virginie Pradel, alors il y a un aspect, je vais vous faire bosser ce soir, hein, mais il y a un aspect fiscal avec la filiation. Hein, il va falloir changer ce droit-là. Parce que peut-être vous pourriez expliquer en deux mots pour nos auditeurs.
Le problème qui se pose, c'est que bon, alors autant le mariage pour tous, c'était deux personnes, là il y a un tiers, et forcément on rentre dans une société où il n'y aura plus de papa. Hein, donc bon, après, reste à savoir si on voit vraiment ça comme une évolution sociétale. Hein,
Je dis ça sans être conservatrice.
Est-ce qu'on a le droit d'être au fond contre, opposé, de sortir d'un débat consensuel sur la question?
Voilà, moi, je dis vraiment, en tant que personne assez progressiste et pas conservatrice, je ne vois pas ça comme une évolution sociétale. Et le problème aussi qui se pose, c'est la question du financement. Que personne n'a posé, mais qui est quand même importante. Pourquoi? Parce que jusqu'alors, les PMA qui étaient prises en charge... Alors, il faut quand même rappeler qu'une PMA, c'est à peu près 4000 euros. Hein, le coût pour la sécurité sociale, et que c'était pris en charge quand il y avait une infertilité ou une maladie grave qui risquait d'être transmise. Maintenant, l'idée des personnes qui veulent recourir à la PMA et qui peuvent très bien le faire dans les autres pays, hein, pourquoi elles veulent que ce soit fait en France, c'est pour que ce soit pris en charge par la sécurité sociale.
Vous êtes pour la prise en charge des PMA étendue aux femmes ou pas?
Non, parce que pour moi, il n'y a pas de il n'y a pas de problème thérapeutique. C'est une envie personnelle. Moi, ça ne m'empêche pas de dormir, mais ce n'est pas un problème médical. Pour moi, c'est un problème plutôt... C'est un choix.
Un choix libre. Et je pense que c'est de thérapie.
Bah voilà, et il y a un médecin qui disait c'est 4000 euros. Potentiellement, ça pourrait concerner dès le début 4000 personnes. Ça fait déjà 16 millions d'euros. Et si toutes les femmes seules se disent j'ai même plus besoin d'un monsieur pour avoir un enfant, ce qui pose aussi des questions, parce que la société sans papa, c'est aussi un problème. Je suis désolée, mais il n'y a pas que les personnes conservatrices qui ont le droit de se poser des questions
sur la prise en charge, ce qu'évoque à l'instant Virginie Pradel, qui est en désaccord avec l'idée d'une prise en charge. Que dites-vous ?
C'est pas une société sans papa. L'idée, c'est qu'il y ait aussi une traçabilité des informations et une ouverture des données. Dans ce débat, on mélange un petit peu tout. L'idée, c'est aussi l'enfant puisse la traçabilité des dons. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, dans certaines situations, les enfants n'ont pas la connaissance de qui a été le donneur, alors que tant les hommes. Certains hommes, en tout cas, les femmes sont favorables à cette transparence. Donc, si le législateur autorise aussi cette transparence sur les dons de gamètes, ça permettra à une société tout à fait équipée où il n'y aura pas d'absence de papa.
Donneur et père, ce n'est pas forcément la même chose. C'est-à-dire que donneur, on comprend bien ce que ça veut dire. Père, il y a aussi l'idée d'une filiation et d'une transmission, d'une éducation. La réalité, c'est que la levée de l'anonymat n'installe pas le père.
Vous érigez un modèle familial en modèle de société. La réalité,
c'est que le donneur, de fait, il peut disparaître dans la nature et ne jamais donner de nouvelles à son enfant.
Ça veut dire que vous condamnez les familles monoparentales. Ça veut dire que les femmes qui élèvent un enfant seul, vous les condamnez.
C'est pas du tout ce que j'ai dit.
Si, vous êtes en train de dire que il n'y a plus de père, il n'y a plus la transmission. La réalité aujourd'hui en France, c'est qu'il y a une multiplicité.
Je crois que là, vous interprétez ce que j'ai dit, parce que c'est pas exactement ce que j'ai dit.
Vous voyez, Yasmine Achafar, que le sujet n'est pas forcément à 100% consensuel et admis par tous, comme si finalement la chose était réglée par avance.
Non, il y aurait des couches de résistance, bien évidemment, parce que ça pose des questions un petit peu comme... cette affaire où on mélangeait aussi tout par rapport à Monsieur Lambert, par exemple. Voilà, c'est des sujets qui sont fondamentaux, qui parlent de la vie, qui parlent de la procréation, de la GPA, des différentes portes ouvertes après qui peuvent se faire et qui peuvent paraître dangereuses. Donc oui, la France, qui les 8% qui ont pu voter pour Monsieur Bellamy, peut-être qu'il peut y avoir là une volonté de résister violemment et de pouvoir apporter quelques difficultés, ce qui est assez courageux parce qu'il propose de faire cette loi qui avait été quand même beaucoup reportée juste avant les municipales.
Réconciliez-vous Marion Mourgue et Romain Mouton.
J'essaye de lui faire comprendre ce que j'étais en train de lui dire. Allez, 20h40
sur France Info. Nous marquons une pause avec le retour de l'info. Thomas Bénèche.
Le gouvernement durcit les conditions d'accès à l'assurance chômage. Elle vise à faire baisser le nombre de demandeurs d'emploi de 250 000 personnes et à réaliser plus de 3 milliards d'euros d'économies d'ici fin 2021. Que prévoit plus précisément ce texte ? Eh bien, entre autres, un système de bonus-malus sur les contrats courts. Il sera mis en place l'an prochain, au 1er janvier, dans 7 secteurs, dont la restauration et l'agroalimentaire. Le chauffard de Lorient, mis en examen pour homicide involontaire aggravé après 9 jours de cavale, il est interpellé ce matin sans résistance dans un hôtel de Lanester dans le Morbihan. À quelques kilomètres de là, le 9 juin dernier, qu'il renverse deux cousins. L'un est mort, l'autre gravement blessé et toujours hospitalisé. Des faits que le suspect reconnaît. La justice condamne ce mardi à Reims un médecin de la police pour agression sexuelle sur de jeunes fonctionnaires. Il écope d'un an de prison avec sursis, assorti de l'interdiction d'exercer son métier. Ce praticien n'en a pas fini pour autant avec la justice, puisque 12 plaintes sont déposées contre lui auprès du procureur de Metz. Entre une vingtaine et une quarantaine de morts, selon les sources au Mali, deux villages de ont été pris pour cible hier dans le centre du pays. Ces attaques rappellent celles déjà commises contre des cibles similaires le 9 juin dernier. Elles interviennent dans le cadre de tensions entre communautés sur fond de terrorisme. En rugby, le sélectionneur du 15 de France a dévoilé aujourd'hui sa liste des 31 joueurs plus 6 réservistes retenus pour la Coupe du Monde au Japon. Les expérimentés Mathieu Bastaro et Morgan Parra sont les grands absents de cette sélection.
France Info.
J'invite les chefs, les soldats, les marins, les aviateurs, des forces françaises de terre, de mer, de l'air, où qu'ils se trouvent actuellement, à se mettre en rapport avec moi. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France, libre dans l'honneur et dans l'indépendance.
79e anniversaire donc de cet appel du 18 juin 1940 du général de Gaulle, célébré aujourd'hui au Mont-Valérien par le président Emmanuel Macron en présence d'Hubert Germain. C'est assez émouvant, 98 ans, l'un des quatre derniers compagnons de la libération. Marion Mourque, c'est une mémoire qui se, on va dire, qui se perd peu à peu parce que les, eh bien, les vivants nous quittent, et une mémoire qu'il faut savoir aujourd'hui entretenir, hein.
Oui, vous l'avez dit, c'est émouvant. En effet, il reste peu de témoins de cette période-là. Après, c'est autre chose, c'est-à-dire que le gaullisme, c'est pas parce que le général de Gaulle n'existe plus qu'il n'y a pas des élus, des électeurs, des Français qui se revendiquent du gaullisme.
Toujours vivant, hein. C'est de nombreux élus se réclament encore aujourd'hui du gaullisme, et pas forcément des anciens. Il y a aussi des jeunes élus.
Oui, parce que ça reste une pensée très moderne et qui peut répondre à des problèmes de société et des problèmes politiques aujourd'hui. Donc, pour beaucoup de gens, ça reste vivant. Alors, encore une fois, il faut dissocier l'anniversaire et la pensée.
Bien sûr, la commémoration. Yasmina Jaffar, ce souvenir évoque quand même une sorte d'état d'esprit, le refus d'une France meurtrie à l'époque, hein, évidemment. Une France qui avait renoncé à son âme. Ça a encore du sens, tout ça.
Renoncer à son âme, c'est vrai que quand je pense que Marine Le Pen a aussi des élans gaulliens, on se dit, oh bah voilà, même elle. Donc il y a une volonté de pas vouloir aujourd'hui renoncer à son identité plus qu'à son âme, donc c'est pas exactement le même esprit. Le général était un homme de projet, d'envergure, qui faisait le lien entre tous les Français, qui était attaché à l'identité, mais pas à l'identitarisme, et surtout qui avait envie d'une ouverture sur l'Europe. Et ça, c'est assez intéressant, c'est pour ça que je parlais de Marine Le Pen tout à l'heure, qui ne veut plus sortir de l'Europe et qui pense à une autre Europe, donc même elle devient gaullienne, et d'avoir envie comme ça de proposer une ouverture, et ça vient un peu en rupture avec les différents pays aujourd'hui qui se replient sur eux-mêmes et qui sont dans la protection totale. On parlera de Trump tout à l'heure, mais voilà, de cette idée-là.
Donc, c'est vrai que vous lancez les sujets, vous, dans les informés.
Ah, pardon.
C'est aussi original. Si l'on regarde, pour se détacher de la commémoration, de l'hommage, hein, du général de Gaulle, si l'on regarde la situation politique du pays aujourd'hui, et pour paraphraser, hein, une phrase désormais célèbre, qui imagine aujourd'hui le général de Gaulle à la tête des Républicains?
C'est votre côté filloniste, Jean-François. Les politiques, quels qu'ils soient, ouais, quel que soit leur parti, leur bord, etc., ont toujours besoin de rappeler des figures tutélaires. On avait les séguinistes, les chiraciens, les gaullistes, etc. C'est ces grands hommes politiques qui, par leur esprit, par leur action, ont marqué l'histoire de la République, et qui aujourd'hui, par leur popularité, ont acquis une forme de sagesse qui, en termes de communication, permet à des politiques moins expérimentées, souvent, de se positionner et d'incarner quelque chose. Le général de Gaulle, aujourd'hui, faire offense au général de Gaulle de dire que qu'est-ce que le gaullisme aujourd'hui, appliquer la politique du général de Gaulle en 2019, c'est pas exactement ce dont parlent les fameux gaullistes. C'est plus un état d'esprit, une posture, une sorte de vision du monde.
Une forme de résistance aussi.
Une forme de résistance, bien évidemment. Et ces figures tutélaires permettent donc de communiquer, d'avoir un positionnement politique.
Alors je vous rassure, hein, rien de filloniste, mais effectivement référence à la phrase de François Fillon. Virginie Pradel, le parti gaulliste aujourd'hui, vous diriez qu'il est en voie de disparition, de dissolution, ou bien tout ça peut rebondir éventuellement et c'est une aventure qui peut repartir? On a du mal à comprendre ce qui se passe en ce moment, hein, avec LR.
Le problème déjà un petit mot sur le gaullisme, pour moi c'est vraiment la notion attrape tout, enfin c'est tout le monde s'est revendiqué du gaullisme si bien que plus personne n'est capable de le définir aujourd'hui, hein. C'est, j'ai envie de dire, c'est presque devenu un synonyme de je suis français, c'est je suis gaulliste, hein.
Vous trouvez qu'il y a une forme de banalisation dans l'incarnation, l'évocation, oui, du gaullisme?
Oui, et je pense qu'on devrait laisser le général de Gaulle dans... Enfin, voilà, on devrait exactement,
oui,
parce que je pense qu'il y a des rappels un peu trop malheureux. Et s'agissant des LR, ils sont victimes en fait de comment dire, du caractère binaire de la politique française. Hein. On a eu la droite contre la gauche pendant des décennies. Maintenant, on a les mondialistes contre les nationalistes.
Le fameux duopole. Hein,
voilà, exactement.
À l'image de ce qui se produit aux États-Unis, comme Yasmina Jaffar a lancé le sujet suivant. on l'évoquera dans un instant. Marion Mourgue, vous vouliez ajouter quelque chose à propos du gaullisme?
Oui, pourquoi la figure du général de Gaulle est si importante dans le débat politique? C'est aussi à mettre en rapport avec l'état des Républicains. C'est que justement, les Républicains sont dans une telle difficulté qu'ils ont envie de se raccrocher à ces périodes victorieuses, celle du général de Gaulle, celle aussi de Nicolas Sarkozy, qui eh bien, sont synonymes de victoire et aussi de victoire électorale. Or, aujourd'hui, on voit bien que c'est un champ de ruines, que les Républicains n'arrivent pas à se mettre d'accord sur une figure qui pourrait les rassembler. Et donc, il y a aussi cette volonté de se raccrocher un peu au passé.
Petit souci d'incarnation. Oui, Virginie Pradel.
Moi, je suis tout à fait d'accord. Et juste, je pense que le gaullisme, voilà, est quand même très transpartisan hein, en définitive. Et ce qui manque surtout à la droite, c'est plutôt une colonne vertébrale idéologique, ce que n'est pas le gaullisme. Parce qu'il y a quand même
Yasmina Jaffar.
Très protéiforme.
Exactement. Et justement, quand on se rappelle des européennes, on voit que, par exemple, M. Wauquiez a voulu prendre la place de Marine Le Pen, pensant qu'elle était totalement HS suite au débat d'entre-deux-tours. Et qu'ensuite, M. Bellamy a décidé d'être plutôt dans un discours anti-Macron, plutôt que de penser à l'idéologie et à ce que, ou en tout cas aux idées de ce que la population qui vote LR aurait souhaité attendre, en fait. Et ils se sont un petit peu fait avoir, et peut-être que le général, je ne veux pas parler à sa place parce qu'il n'est pas là, et que comparer des époques, c'est impossible, parce qu'on n'est pas du tout à la même époque, et le temps politique est tellement plus rapide. Oui. Mais en tout cas, je pense que ça serait plus l'attache aux idées que l'attache aux personnes.
Romain Mouton, est-ce qu'il y a, je répète ma question, un risque de dissolution, de disparition de l'UNR, pardon, de LR, des Républicains aujourd'hui, quand on voit ce qui se produit, notamment les grandes manœuvres des municipales, ce qui a démarré avec La République En Marche ce lundi, qui va tenter des OPA dans certaines villes.
Oui, et la disparition de LR, elle a commencé, mais c'est la disparition des partis politiques traditionnels avec une nouvelle façon de faire de la politique et des hommes qui créent un parti, un mouvement. Et il y aura certainement, après la fin de l'époque Emmanuel Macron, un nouveau parti qui se créera auprès d'un nouveau leader. Mais c'est vrai que la stratégie politique et de communication qui est mise en place par La République En Marche est très complète. On le voit entre les personnalités de gauche qui sont chassées par un proche d'Emmanuel Macron de gauche, Thierry Soler qui est à la manœuvre pour Édouard Philippe et qui va lui à la chasse au maire de droite. On voit Stanislas Guérini et Pierre Persson qui ont annoncé hier des villes très symboliques. On voit par exemple Reims, Arnaud Robinet qui a un temps flirté avec La République En Marche, il a soutenu Bellamy et il a un candidat. Donc c'est assez fascinant cette période politique. Ça va être assez fascinant de voir du coup les résultats dans ces villes. Est-ce que l'homme va primer sur le parti? La réponse, ce sera au municipal.
Très bonne question. Et pour clore ce débat autour du 18 juin 1940 et du parti gaulliste, Marion Mourgue, il faut quand même rappeler qu'il y a un Premier ministre qui est issu du parti en question, quand même. Hein.
Oui, mais qui est bien parti. Mais une des forces des Républicains, c'est quand même le réseau d'élus. Et donc, ça peut aussi annoncer quelques victoires, y compris pour la droite, aux prochaines municipales. Donc, le résultat des européennes ne sera pas forcément le même au municipal.
Ne sera pas forcément dupliqué en mars 2020. Allez, 20h50 sur France Info. Rappel de l'info avec vous, Thomas Bénèche.
Il reconnaît être à l'origine du drame. Le chauffard de Lorient, soupçonné d'avoir fauché deux enfants, est mis en examen aujourd'hui pour homicide involontaire aggravé. Il est interpellé ce matin dans un hôtel de Lanester dans le Morbihan après 9 jours de cavale. C'est l'appel à témoins lancé pour le retrouver qui a permis de l'arrêter. Le 9 juin, il renverse avec sa voiture 2 cousins dont l'un est mort avant de prendre la fuite. La magistrate agressée hier matin à son domicile de région parisienne, toujours hospitalisée. Cette présidente de la cour d'assises des Yvelines sera entendue dès que possible par les enquêteurs. Ce matin, l'Union syndicale des magistrats a été reçue au ministère de la Justice pour alerter sur le problème de sécurisation des juridictions. Selon la garde des Sceaux, Nicole Belloubet, 60 agressions de magistrats ou greffiers sont chaque année signalées. Le projet de loi mobilité voté aujourd'hui en première lecture à l'Assemblée nationale. Les députés République En Marche, du Modem et de l'UDI ont voté pour. LR et PS se sont abstenus. L'une des mesures phares de ce texte, c'est l'assouplissement possible de la vitesse sur les routes, limitée à 80 80 km/h. Un tremblement de terre de magnitude 6,4 a frappé aujourd'hui le nord-ouest du Japon. Pas de dégâts ni victimes recensées à l'heure qu'il est. Une alerte au tsunami a été déclenchée avant d'être finalement levée. Enfin, Italie, Brésil et Jamaïque, Australie, dans le groupe D du mondial féminin de football, on s'affronte ce soir. Le coup d'envoi de ces rencontres, eh bien, c'est dans 10 petites minutes.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Il y en a un qui part tôt, très tôt. Donald Trump lance ce soir officiellement, il sera 2h du matin heure française à Orlando, c'est en Floride, hein, sa campagne pour un second mandat à la Maison Blanche. Correspondance avec vous, Grégory Phillips à Washington.
Il adore ça, Donald Trump, les podiums, les grands meetings. Pour le lancement de sa campagne, le président américain a réservé une gigantesque salle de basket à Orlando, l'Amway Center, qui peut accueillir 20 000 personnes. Mais Trump assure sur Twitter que plus de 100 000 de ses supporters ont demandé un ticket pour assister à l'événement. À un an et quatre mois de la présidentielle, Donald Trump n'a personne face à lui dans le camp républicain. Un seul candidat s'est déclaré, il s'appelle Bill Weld, c'est un ancien gouverneur du Massachusetts. En vérité, il n'a aucune chance et s'il y a une primaire républicaine, elle sera de pure forme. Côté démocrate, ils sont 23 candidats à l'investiture et ils se retrouveront eux aussi en Floride la semaine prochaine à Miami pour le premier de leurs grands débats. Dans les derniers sondages au niveau national, Trump est distancé par au moins 4 de ses démocrates. Le premier d'entre eux est Joe Biden, l'ancien vice-président d'Obama. Mais à 500 jours de l'élection, alors qu'on ne connaît pas encore le nom de celle ou celui qui affrontera Trump, ces sondages ont une valeur toute relative.
Yasmina Jaffari, il peut encore gagner Trump ?
Oui. Voilà. Donc non, mais là, oui. En plus d'autant, mais d'autant qu'il est vraiment assez tranquille parce que le procureur Robert Mueller n'a pas réussi, même en fouillant derrière tous les cailloux, à trouver une collusion possible avec la Russie. Donc il est assez tranquille pour pouvoir dire aujourd'hui aux différents médias qu'il déteste, comme le New York Times, voyez, je suis une victime. Vous avez cherché à faire une cabale contre moi et en fin de compte, je suis le plus honnête des hommes. Il a différentes stratégies. Une stratégie interne qui est de parler à l'Amérique, pas celle qu'on voit dans les séries américaines, mais celle du centre, celle qui est une Amérique des rapports de force. Et il a cette facilité à tenir ses promesses. Donc il a tenu ses promesses et en ce sens, cette Amérique-là du centre, qui se sent enfin entendue, est en train de dire nous vous redonnons mandat. Et il a aussi une stratégie extérieure assez forte, c'est qu'il est dans, on l'a vu avec la Corée, on l'a vu avec le Proche-Orient, dans une capacité de dire, moi je renverse la table, je défais tous les codes, et pour ça, de la manière que je le fais en marketing et en économie, je vous prouverai que je suis celui qu'il vous faut. Donc, pour toutes ces raisons, il passera.
Ouais, il passera, vous dites. Romain Mouton, à force de tweets, de scandales, de coups d'éclat, il nous fascine d'ailleurs Donald Trump, est-ce qu'il peut aussi, à contrario, se perdre lui-même ?
Cette campagne, elle va être passionnante. Et il peut se perdre parce qu'il va avoir deux casquettes pendant un long moment, la casquette de candidat et la casquette de président. Comme tout est possible, il peut, en agitant, bien évidemment, avec outrance, l'ensemble des débats publics, être réélu. Et lui, il fait pari à la fois des États qui lui apporteront le plus grand nombre d'électeurs, il fait pari de déjouer les sondages qu'il ne donnait pas gagnant la dernière fois, mais aussi il fait le pari d'une opposition qui est pour le moment, inexistante, mais qui n'a pas non plus de ligne politique, avec des démocrates qui oscillent entre un gauchisme bon teint qui n'a pas été gagnant lors de certaines élections de mi-mandat, notamment en Floride, et une sorte de social-démocratie beaucoup plus rose qui permettrait de chasser des électeurs du centre des États-Unis. Donc ça va être des jours palpitant, mais attention, Donald Trump aura une double casquette et il ne pourra pas être le candidat permanent puisqu'il sera quand même comptable ses actions jusqu'à la.
On voit ça un petit peu ailleurs aussi, si vous voyez ce que je veux dire. Virginie Pradel, je serai le plus grand créateur d'emplois que Dieu n'ait jamais fait. C'est ce qu'il avait promis, hein, Donald Trump. Le chômage est au plus bas, mais quand même à quel prix? Parce que les USA notamment sont sortis de l'accord climat. C'est sa force, ça, l'emploi, l'économie, l'Amérique qui repart.
Oui,
c'est réel.
Bah, y a quand même, c'est des mesures de bon sens, hein, de baisser les impôts, enfin tout ce qu'il a mis en œuvre en définitive, c'est des réformes de bon sens. Et c'est vrai que quand on lit la presse américaine, c'est pas la presse française, hein, on voit que les salariés ont trop d'offres d'emploi, qui ne savent pas où travailler, et qu'en définitive on augmente leur salaire.
Oui.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que ces réformes manifestement ont eu un certain succès, ont été plébiscitées quand même, y compris par les milieux économiques, hein, qui n'étaient pas les premiers opposants à Donald Trump, hein, dès lors qu'ils ont, ils y ont trouvé leur compte. Donc je pense qu'il pourra mettre ça à son crédit, hein, les fameuses Trumponomics. Et après, reste à savoir si ce sera suffisant, parce que c'est vrai qu'il y a un autre pan de Trump, bon, qui est un peu plus contestable.
Mayer Mourg, vous allez conclure, hein, vous savez ça.
Quelle mission. Non, juste, on sent que cette élection va être quand même un référendum pro ou anti-Trump. Or, on voit que sa base électorale est très solide derrière lui et que finalement, ça ne s'est pas effrité depuis le début de son mandat. Donc, ça donne plutôt de grandes chances pour Donald Trump pour être réélu.
Oui, Donald Trump qui a tweeté déjà sur les illégaux. Hein, il va axer sa campagne sur les questions d'immigration. Mais au fond, ça n'est pas l'apanage de Donald Trump aux États-Unis. Ça existe dans le monde entier. C'était aussi un des éléments chez nous qui revient d'ailleurs en force, Marion Mourin.
Ça a été aussi une des questions des Européennes et la crise migratoire
Absolument.
Est une des questions qui s'impose un peu partout dans le monde.
La Une du Figaro avec vous demain.
On revient sur les coulisses du bras de fer entre Renault et Fiat.
Ah, et avec vous Yasmina Jaffar, que propose laruchemedia.com?
En partenariat avec FIP, j'ai réalisé une interview de Manu Dibango et nous n'allons pas parler de musique parce que je ne suis pas spécialiste de musique, mais d'Afrique et de politique.
Ah, c'est très bien, sur laruchemedia.com. Merci également à Virginie Pradel et à vous Romain Mouton. Pour ma part, je vous souhaite de passer une bonne fin de soirée, puis on se retrouve demain soir pour une prochaine édition des Informés de France Info.